Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. On attend que les salles françaises réouvrent, mais dans cette attente, eh bien, on va vous proposer encore de regarder des films via des plateformes VOD, soit d'acheter un DVD et même de regarder la télévision. Bonjour Manu, bonjour Guillaume. Alors de quoi on parle ?
Bonjour, eh bien, je vais vous parler d'un DVD Blu-ray, hein, Lucky Day de Roger Avary.
Et puis toi Guillaume, c'est en Australie que tu nous emmènes.
C'est ça, je vous emmène sur les terres du gang Kelly, une nouvelle adaptation faite par Justin Kurzel du célèbre mythe.
Et puis Marine, eh bien, elle a vu le dernier film de David Fincher qu'il n'a pas pu vendre à des studios américains, donc il l'a proposé à Netflix. C'est au tour, eh bien, du scénariste de Citizen Kane, Herman Mankiewicz. Et ce sera l'occasion, ce dernier film de David Fincher, eh bien, de jouer un blind test autour, eh bien, de la filmographie du réalisateur américain. Il y aura 5 extraits et il faudra évidemment deviner les titres. Mais on débute avec un feel-good movie promis aux salles françaises. Il devait sortir en salle, eh bien, le 11 novembre, c'est The Singing Club, mais il atterrit directement sur Canal+.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Épargné par la vision de Full Monty dont tout le monde m'avait parlé à sa sortie, et même après, hein, je n'ai pu résister à aller voir The Singing Club, d'autant que je n'ai pas identifié tout de suite qu'il s'agissait du dernier film de Peter Cataneo, qui avait donc marqué les esprits en 97. Mais en y regardant de plus près, ce n'est pas étonnant que ce soit le réalisateur de Full Monty qui soit derrière ce long métrage. Tiré d'une histoire vraie, le film raconte l'histoire de femmes de soldats parties en Afghanistan, eh bien, qui montent une chorale et jouent au célèbre Albert Hall pour une soirée de succès. Voilà, donc c'est encore une histoire de groupe et qui fait quelque chose d'extraordinaire. Mais pour cela, il faut accepter de faire, eh bien, un flashback. Nous sommes en 2011 sur une base militaire du Yorkshire. Alors que les hommes partent pour une importante mission à l'étranger, eh bien, la femme du colonel se sent investie d'une mission, trouver des activités passionnantes pour les femmes en l'absence de leur mari. Ça leur évite de tomber dans les addictions comme l'alcool ou l'achat compulsif de produits au téléachat. Alors, il y aurait bien le tricot, mais quelqu'un propose plutôt de chanter et la femme du colonel, eh bien, serait bien contente qu'on y chante des cantiques. Mais ça va un temps, hein. La fronde est subtile, d'autres proposent davantage de puiser les morceaux dans la pop musique, de quoi rameuter de plus en plus de femmes. Diriger cette chorale, il faudrait un chef ou une chef, mais il y en a deux. La femme du colonel, interprétée par une éclatante Christine Scott Thomas, rivée à ses principes, sans oublier d'être avenante et compréhensive, mais quand même un peu pète sec, ayant du mal à quitter son rang. Elle s'oppose à la représentante des femmes de soldats, interprétée par Sharon Horgan, qui elle est souriante, pétillante et qui a l'avantage d'être musicienne, ce qui peut aider. Une guerre sourde va opposer les deux femmes à la tête de cette chorale. C'est le duo antagoniste de ce film qui va évidemment nous faire partager la vie d'un groupe hétéroclite qui découvre la cohésion et la camaraderie au sein d'une chorale. Avec la musique et le chant ayant un effet cathartique sur ces femmes qui restent éloignées de leur mari pendant de longs mois, avec des drames qui se nouent parfois. Les hommes sont quasiment absents de Singing Club, on comprend pourquoi. Alors le film est inspiré, je l'ai déjà dit, d'une histoire vraie. Les femmes soldats sont vraiment allées jusqu'à l'Albert Hall avec leur chorale pour mettre le frisson au public. On comprend aussi pourquoi le réalisateur, au-delà d'un penchant avoué pour le Feel Good Movie, a documenté son long métrage, la solitude, le penchant pour l'alcool, la difficulté d'élever seul ses enfants, l'angoisse d'être abandonné. Voilà tout ce qu'on peut voir dans ce film. Le titre original est Military Wives. Donc, on ne sait pas pourquoi il a été retraduit en anglais pour sa distribution en France. Mais donc, le titre était plutôt simple, c'est-à-dire « Les épouses de soldats ». Mais on comprendra aussi que le réalisateur ne s'appesantit jamais sur le malheur, puisque ce qui doit gagner pour un pareil film, eh bien, c'est la cohésion du groupe, malgré les différences. Alors, c'est une voie programmatique à laquelle on cède facilement. Alors, d'une part, parce que les interprétations de la chorale sont singulières, et d'autre part, le jeu des actrices est vraiment convaincant. Christine Scott Thomas est remarquable. Alors son défi est de laisser enfouir une douleur qui, nous le savons, au bout d'un moment, eh bien, va éclater. Alors tout feel good movie qu'il est, The Singing Club avance évidemment en terrain balisé, mais se distingue par une atmosphère délicate et joyeuse parsemée de tonalités dramatiques et surtout, eh bien, de la musique. The Singing Club est diffusé à partir du mercredi 9 décembre sur Canal+. Le film n'aura pas eu le temps de passer par les salles de cinéma. Il y était pourtant donc programmé le 11 novembre. On fait un retour à l'année 2019 avec le copain de Quentin Tarantino, Roger Avéric, qui avait sorti Lucky Day.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Vous avez entendu la façon dont il parle, hein, son accent. Vous savez pourquoi il parle comme ça? Parce que c'est un intellectuel fêlé. Tu sais dit?
Leur séance de rattrapage pour le Lucky Day, qui, après son passage éclair en salle, sort en Blu-ray et DVD chez Metropolitan Export. Le retour inespéré de Roger Avary l'année passée derrière la caméra se devait être un petit événement. Alors, rappelons qu'il fut dialoguiste de Reservoir Dogs et co-scénariste de Pulp Fiction et surtout l'auteur d'un des plus grands films des années 90, le nihiliste Killing Zoe, polar qui mêlait les influences de la nouvelle vague avec un goût prononcé pour le bis déjanté. Puis il réalisa un téléfilm avec Rutger Hauer et une adaptation du roman culte de Bret Easton Ellis, Les lois de l'attraction, en 2002. Après un film inédit en France en 2004, Glitterati, Roger Avary a disparu de la circulation, brouillé depuis des années avec Tarantino. Le voir revenir avec un petit film toujours produit par Samuel Adida, décédé il y a 2 ans, ce film ravive des souvenirs émouvants, d'autant qu'on a l'impression que le temps ne s'est pas arrêté pour celui qui fut l'un des grands espoirs du cinéma américain des années 90. Alors Lucky Day paraît coincé dans une époque, un style, ce qui en fait à la fois son charme et sa limite. Le scénario, plutôt paresseux sur le papier, ne cherche pas à faire le malin. Il déroule des thèmes et obsessions du cinéaste. L'histoire en soi ne présente guère d'intérêt et ne dépareille pas d'une banale série B. Alors le héros, Red, se prépare pour ce grand jour. Il sort de prison après une purge de 2 ans pour un braquage qui a coûté la vie de son complice. Il retrouve sa petite famille, sa fille Béatrice et sa femme Chloé. Celle-ci prépare une expo d'art contemporain, des peintures de briques blanches, création cathartique pour celle qui aimerait que son homme rentre dans le droit chemin. Et c'est sans compter Luc, le frère de son ancien complice, psychopathe notoire, tueur à gages sans pitié et accessoirement admirateur de la France au point d'adopter un accent anglais en se prenant pour un Français. Alors il débarque aux États-Unis avec le désir de venger son frère, tenant Red pour l'unique responsable. Sur son passage, cet ange de la mort au look cartoonesque ne fait pas dans la demi-mesure et désingue sans état d'âme tous les pauvres innocents, ou pas d'ailleurs, qui croisent sa route.
What I want to know is, did you know that your here has been embezzling the connection? If no, I let you leave.
Alors si l'intrigue tient en 3 lignes, le charme opère, ne serait-ce que par la manière dont Avary raconte cette histoire dans un esprit très pulp, tout en poursuivant son étrange fascination pour la langue et la culture française, à l'image de la fille de Red qui refuse l'anglais pour ne parler que dans la langue de Molière, ce qui nous vaut des séquences exquises à contre-courant du cinéma actuel.
Je ne sais pas ce que je ferai sans toi.
Ta vie continuera et moi, je serai toujours là pour te protéger. Invisible.
J'ai faim.
La présence au générique de Thomas Sisley, qui arbore une petite moustache hitlérienne, et de Nadia Fares renforce cette impression. Alors cet hommage bienveillant n'a rien de gratuit, tant l'univers de Roger Avary est imprégné par une admiration pour la nouvelle vague et en premier lieu Jean-Luc Godard, avec qui il partage le goût des dialogues absurdes et littéraires, les ruptures de ton, les digressions intellectuelles et les motifs visuels hérités du pop art, mais dans une forme, on va dire, très abordable, modeste et habile. Alors, sans être un chef-d'œuvre, hein, Lucky Day est un sympathique polar décalé, très greenhouse, versant dans le gore à plusieurs reprises et gratinant le monde de la mode contemporaine, mais avec une malice qui n'a rien de rance. La très belle séquence du carnage dans le musée où le sang gicle sur les toiles immaculées demeure un beau moment de cinéma et une jolie métaphore sur la création qui arrive par accident. Alors, la prestation de Crispin Glover, comédien culte sous-estimé, alors surtout connu pour jouer le frère de Marty dans Retour vers le futur, est impressionnante. Il est un peu l'attraction de ce petit film vintage et sans prétention, peuplé de personnages cocasses, tous très bien interprétés. Nina Dobrev, craquante comme tout, a des airs de Chantal Goya dans Masculin Féminin, revu et corrigé par l'univers de Scooby-Doo, tandis que dans un petit rôle hilarant, on note la présence de Marc Dacascos, hein, comédien fétiche de Christophe Gans, qui est apparu dans quelques-uns de ses films des années 90 et début 2000, dont Le Pacte des loups. Alors, je rappelle, hein, ce film en Blu-ray, DVD, sort chez Metropolitan.
Et c'est donc Lucky Day de Roger Avary.
J'étais très ému, moi, quand j'ai vu Lucky Day, parce qu'à la fin, ils ont rendu hommage à Samuel Didet qui venait de mourir. Et il y a le tout dernier plan du film, je crois que c'est même post-générique, c'est un plan de Samuel Dida qui devait faire un petit caméo sûrement et qui apparaît. J'ai trouvé que c'est une belle attention parce que pour les amateurs de tout ce cinéma-là, c'est le producteur un peu indépendant qui a bossé là-dessus, quoi.
Merci pour ces précisions, Guillaume. Hollywood, comme un reflet déformé de l'Amérique dans Manque de David Fincher sur Netflix, un film quasi expérimental, hein, qui prend comme figure Herman Mankiewicz, le scénariste de Citizen Kane. C'est Marine qui nous en parle et puis après, eh bien, on joue un blind test autour de la filmographie de David Fincher.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Manque. C'est Orson Welles.
Je me doute que c'est toi.
Manque, c'est Herman Mankiewicz, un scénariste talentueux mais alcoolique et qui se plaît un peu trop à détruire tout ce qui l'entoure. Il est le frère du célèbre réalisateur Joseph Mankiewicz et dans les années 30, âge d'or des studios à Hollywood, il va écrire ce qui sera le scénario de l'un des plus grands films du siècle dernier, Citizen Kane de Orson Welles. Manque raconte l'histoire d'une douloureuse écriture et de l'homme derrière le chef-d'œuvre.
J'ai supporté ton alcoolisme suicidaire, ton attachement pour les jeux d'argent, tes amourettes platoniques.
Je t'ai donné une deuxième chance.
Manque, c'est le nouveau film de David Fincher et sa sortie était très attendue pour plusieurs raisons. Le cinéaste n'avait rien réalisé depuis 6 ans. Depuis The Gone Girl, il s'était contenté d'une incursion dans la production avec la série policière Mindhunter. Manque est un projet de longue date pour le réalisateur. C'est un film pour lequel la plateforme de streaming Netflix lui a donné carte blanche et c'est un film dont l'esthétique noir et blanc tranche grandement avec ses films précédents. Manque est donc une production et une exclusivité Netflix qui décidément aime bien les personnages vintage alcooliques en ce moment puisque Manque sort tout juste après l'énorme succès de The Queen's Gambit et cette ode à l'Hollywood d'avant permet également à la plateforme la plus célèbre du monde de se positionner encore un peu plus comme le pourvoyeur du cinéma de demain. En laissant carte blanche au réalisateur, Netflix devient peu à peu le symbole d'un nouveau souffle pour les cinéastes hollywoodiens tels que Alfonso Cuarón, Martin Scorsese et maintenant Fincher qui ne tarissent pas d'éloges sur la plateforme et sur la liberté qu'elle leur a accordée pour réaliser leur dernier film. Et pour Fincher, il s'agit d'un film symboliquement important puisque la première version du scénario a été écrite il y a 20 ans par son propre père qui est aujourd'hui décédé et qu'il est le fruit de leur collaboration. Et ça n'est sans doute pas un hasard si le film parle des rapports étroits et complexes entre scénariste et réalisateur.
C'est toi qui as pris ce rôle de clown de service.
Personne, je dis bien personne, ne se permet de singer William Randolph Hearst.
Si tu croises le fer avec Willy, t'es foutu.
Les débuts du film demandent aux spectateurs quelques efforts pour se mettre dans une ambiance particulièrement rétro. Hein. Fincher se fait plaisir, on le sent, en recréant la mise en scène des grands studios des années 30, en poussant ses acteurs à légèrement surjouer à la manière de l'époque. Mais le rythme, heureusement, s'accélère à l'image de la bande-son jazzy qui accompagne le film. L'arrivée notamment de Amanda Seyfried dynamise ostensiblement le film, mais c'est bien sûr Gary Oldman dans le rôle-titre qui fait que la magie opère. Il rend le personnage de Manque tour à tour agaçant, attachant, pathétique, toujours empreint d'un humour des plus caustiques et d'un cynisme à toute épreuve. Manque est porté par un noir et blanc sublime. La photographie ressuscite les films des années 30 tout en gardant une certaine modernité. Les acteurs sont excellents et les dialogues délectables. Le seul défaut, et non des moindres qu'on pourrait lui reprocher, c'est d'être un film élitiste, un concentré de private jokes pour cinéphiles. Compliqué d'adhérer à l'univers du film, compliqué d'en saisir l'humour si l'on n'a pas quelques connaissances solides au sujet de cette époque et du cinéma de cette époque surtout, qui est désormais vieux de presque un siècle quand même. On a coutume de se demander si on a besoin d'être cultivé pour comprendre l'art. Eh bien, dans le cas de Manque, oui. Manque ressemble un petit peu à un film fait pour rire les étudiants en cinéma et leurs professeurs. Néanmoins, c'est un film très attachant. On sent que les personnages ont été écrits et interprétés avec une égale tendresse. Et on sent surtout le plaisir manifeste que David Fincher a eu à le réaliser.
Manque. Monsieur Mankiewicz.
Un peu plus d'une dizaine de films pour David Fincher, réalisateur américain, qui, je crois, n'a pas forcément votre admiration.
Il y a des hauts et bas.
Il y a des hauts et des bas.
On n'a peut-être pas les mêmes hauts et bas, en fait. C'est ça qui peut être intéressant.
Bon, en tout cas, vous connaissez sûrement ces films. J'avoue que pour les choix d'extrait, bon, ça a été compliqué de ne pas faire un peu facile. Mais ce n'est pas très grave. L'idée, c'est de revoir un peu cette filmographie. C'est quasiment la moitié des films quand même qui vont être contenus dans ce blind test. Premier extrait, il faut donc découvrir le titre de ce film.
Monsieur Dunn.
Monsieur Collins. Et je vous connais. C'est vous que j'ai vu avec les bénévoles.
Par solidarité.
J'espère que vous ne m'en voulez pas de passer. J'ai eu votre adresse sur cette lettre que vous avez envoyée à ma femme.
Amy et moi croyons encore à l'art épistolaire.
Ça m'a toujours étonné que vous gardiez contact. Après ce qui est arrivé. Vous êtes restés ensemble 2 ans au lycée, c'est ça ?
C'était la première relation sérieuse de ma vie.
Pourquoi avez-vous rompu ?
Quelle drôle de question.
Vous lui manquiez de respect ? Vous étiez infidèle ?
Là, vous devenez grossier.
Je vais vous dire ce qu'elle m'a dit. Elle a fini par rompre. Vous êtes complètement parti en vrille. Vous la harceliez, vous la menaciez. Et quand vous avez fait une tentative de suicide dans son lit, vous avez été interné.
Votre femme disparaît et vous venez jusqu'ici pour me servir votre couplet ?
J'aimerais beaucoup entendre votre version de l'histoire.
Ça a été trouvé, mais grâce au dernier indice. Hein.
Ouais, c'est Gone Girl.
Oui, c'est Gone Girl, film de 2014 avec Ben Affleck, dont c'était quand même la voix française, ça c'était un autre indice. Mmh. Et il était donc accompagné de Rosamund Pike avec cette formidable image d'ouverture et de fermeture qui se rejoint. Donc adapté du roman Les Apparences, Gone Girl, de Gillian Flynn. On suit le destin de Nick Dune, qui signale la disparition de sa femme et qui passe bien de mari malheureux à coupable idéal. Le film s'apparente à une dénonciation de l'hypocrisie d'une société américaine vénérant donc les apparences. Combien de spectateurs, d'après vous ?
Un peu plus d'un million, ça avait plutôt marché, non ?
Presque 2 millions, 1,9 million de spectateurs en France. Deuxième extrait, donc, tiré de la filmographie de David Fincher.
Pardon, j'avoue que je ne vous saisis guère.
Ce matin, à 7h, un message en langage codé est venu de la base. C'est la première fois, Clémence, qu'il arrive une communication d'un si haut niveau dans l'histoire de cette station à ma connaissance. Ils veulent que cette femme soit soignée comme une reine. Il paraît qu'elle est top priorité.
Pourquoi ?
Là, j'en sais rien. Mais pourquoi vous l'avez laissé sortir de l'infirmerie ? Cet accident qu'a eu Murphy, hein ? Voilà ce qui se passe lorsqu'un de ces lamentables crétins attrape une érection.
Je suis docteur, le geôlier, c'est vous.
Donc c'est trouvé.
Donc c'est Alien 3.
Film de 92. Hein, dans ce troisième opus d'Alien, nous sommes envoyés sur une planète prison où se trouve une colonie minière pénitentiaire. Alors, c'est avec Sigourney Weaver, évidemment. Il y a eu 2 versions, une courte de 114 minutes et puis une longue de 145 minutes. Combien de spectateurs en France, d'après vous ?
500 000.
Un peu plus quand même. Allez, on multiplie par 3. 1,6 million. Troisième extrait de ce blind test.
Putain, je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais eus. Je vois tout ce potentiel. Et je le vois gâché. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies.
Film qui a divisé, ça a été trouvé.
Et c'est Fight Club.
C'était facile comme extrait, je pense. Là, on entendait Brad Pitt. Donc, film avec Edward Norton aussi, adapté du roman éponyme de Chuck Palahniuk, merveilleux roman. Des hommes se retrouvent dans un lieu clandestin appelé le Fight Club, dirigé par un certain Tyler Durden, un gourou activiste critique vis-à-vis de la société de consommation. Alors, ça a été un bide monumental aux États-Unis et 1 million d'entrées en France. Donc, pour l'instant, c'est parmi tous les films qu'on a écoutés, là, c'est celui qui a fait le moins d'entrées en France. Il en a fait bien 2 fois moins que celui-ci.
Je te dirai un secret si tu m'en dis un.
D'accord.
J'ai vu ma maman embrasser un autre monsieur. Elle est devenue toute rouge. À ton tour.
Je suis pas aussi vieux que j'en ai l'air.
J'en étais sûre. T'es pas comme les autres gens vieux. Comme ma grand-mère.
Je suis pas vieux.
T'es malade?
Ben, j'ai entendu maman et Tizi qui parlaient tout bas et disaient que j'allais bientôt mourir, mais peut-être que non.
Extrêmement facile, je pense, Guillaume.
C'est l'étrange histoire de Benjamin Button.
Oui, film de 2008 avec encore une fois Brad Pitt et puis Cate Blanchett, un homme incarné par Brad Pitt, né vieux et rajeuni au fil des années. Alors, il y a ce merveilleux passage où, alors moi, je me souviens de l'exclamation dans la salle quand on voit Brad Pitt rajeunir petit à petit et quand il est sur une moto, un biker, les cheveux au vent. Alors là, ça a été dans la salle vraiment un grand moment. Et donc, dans le même temps, et bien Daisy, interprétée par Cate Blanchett, et bien vit une histoire d'amour avec lui tout au long de sa vie. Alors, il faut savoir que le film avait été retenu par Steven Spielberg en 1991 avec dans le rôle principal Tom Cruise. Mais le réalisateur a donc quitté le projet pour réaliser Jurassic Park et la liste de Schindler. Et puis le film, de toute façon, a été monté plusieurs années après pour des raisons peut-être d'effets spéciaux, Guillaume.
C'est ça, en fait. Il y a même des gens comme Coppola qui ont bossé dessus, qui sont passés un peu le relais. Et la question des effets spéciaux a posé un gros souci. Et d'ailleurs, il faut savoir que le film, c'est un peu un des précurseurs en ce qui concerne la technique maintenant qu'on appelle le de-aging, qui est à la mode avec des films comme Irishman, les derniers Marvel. Ça fait partie des gros jalons qui ont permis ces maquillages numériques particulièrement semblables à la réalité.
En tout cas, ça a été reconnu par les Oscars, puisque meilleure direction artistique, meilleur maquillage et meilleurs effets visuels pour ce film. 2,5 millions d'entrées en France. Dernier extrait de ce blind test maintenant.
Il m'arrive parfois de faire mal à de petits animaux, vrai ou faux. Je me sens coupable de me masturber.
C'est pas moi qui écris les questions. Moi, j'analyse les réponses.
De quoi s'agit-il, au juste ?
Ça nous donne une idée générale de vos capacités.
Non, je veux dire, tout ça, votre produit, c'est quoi ?
Oh ! C'est un jeu ?
Un jeu ?
Conçu personnellement pour chaque participant. Comme des vacances fantastiques. Sauf que vous n'allez nulle part. C'est le jeu qui vient à vous.
Et quelle sorte de vacances ?
Différentes à chaque fois.
Ouvrez-moi donc l'appétit avec des détails.
Et nous fournissons ce qui vous manque.
Énigmatique, c'est trouvé.
Et il s'agit de The Game.
Film de 1997, on entendait la voix de Michael Douglas qui interprète Nicolas Van Orton, un homme avide de pouvoir, froid, distant et triste, qui va fêter ses 48 ans. Il se voit offrir un cadeau d'anniversaire par son petit frère, interprété par Sean Penn, et qui lui explique que dès qu'il appellera la Consumer Recreation Service, eh bien, le jeu viendra à lui. Et donc là, eh bien, il commence à s'intéresser à ce qu'est cette organisation. 1,2 million d'entrées en France pour The Game. Ainsi s'achève donc ce blind test spécial David Fincher. Si vous aviez un film à retenir, puisqu'on a dit au début que ce réalisateur vous divisait, un film à retenir de David Fincher ?
Moi, ce serait Zodiac, sans problème.
Ben, je pense aussi, même si j'aime beaucoup Seven et mon adolescence a apprécié. L'adolescent que j'étais apprécié Fight Club en son temps, même si j'en suis un peu revenu depuis.
D'accord, on reste donc sur Zodiac qui n'était pas dans ce blind test. On termine cette émission entre Robin des Bois et Billy the Kid. Voici l'histoire de Ned Kelly. C'est toi qui vas nous en parler, Guillaume.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi ?
Ned Kelly, voilà son nom. Tue-le.
Il est temps que tu te fasses un nom.
Ned Kelly revient sur nos écrans, alors pour l'occasion plutôt petit, avec une nouvelle adaptation de la vie du célèbre brigand australien. Alors Ned Kelly, c'est le nom d'un bushranger, surnom donné au hors-la-loi du temps de la colonisation de l'Australie. Ces natifs du coin mettaient leur connaissance du terrain à profit pour se cacher des forces de l'ordre et disparaître dans la nature après leurs divers méfaits. Alors rien à voir donc avec la chanson du groupe australien ACDC, hein, Beating Around the Bush, qui milite plus pour une activité sexuelle métaphorisée ou d'une quelconque dynastie de présidents américains connus eux aussi pour leur politique interventionniste. Ned Kelly donc est peut-être moins connu chez nous, mais en Australie c'est une figure historique très très importante. Il incarne la résistance face aux Britanniques et plus généralement aux forces de l'ordre très répressives qui abusent alors de leur pouvoir. Il est encore très apprécié là-bas, malgré le fait que derrière la figure canonisée de Robin des Bois, hein, se cache aussi un braqueur de banque, bah doublé d'un tueur quand même de sang-froid, il faut bien le préciser. C'était pas un tendre. Donc cette figure historique va tellement marquer les esprits qu'elle va vite quitter son giron d'origine pour contaminer le folklore d'autres pays et bien évidemment la culture populaire. Et c'est ce qui nous intéresse ici, parce que c'est pas la première fois que Kelly s'invite au cinéma. Ned Kelly, c'est un peu l'équivalent humain de Dracula, de la créature de Frankenstein, de King Kong. C'est un mythe qui a accompagné le cinéma depuis ses débuts, à tel point que l'on estime que le premier long métrage de l'histoire du 7e art serait The Story of the Kelly Gang, réalisé par Charles Tate et sorti en 1906, malheureusement en grande partie perdu. Une incarnation plutôt originale du mythe fut celle du film de Tony Richardson en 70, qui plaçait sous les spotlights rien de moins que Mick Jagger. Pas forcément très convaincant, ni le point fort du film de Richardson qu'on a connu plus impliqué. Mais ce qu'il fallait bien sûr retenir de cette version, c'était la récupération britannique de cette figure de la lutte contre l'envahisseur britannique. En ouverture, tout cela, d'une décennie propice au film contestataire. On passe donc plus rapidement sur le Ned Kelly de Gregor Jordan en 2003, parce que bon, là, on quittait le territoire de la lutte politique pour un film plus historique. Ben, en fait, comme celui qui nous intéresse aujourd'hui. Le gang Kelly, donc de Justin Kurzel, s'avance sur ses rails plus classiques, témoin d'une époque étrangement moins propice à la lutte artistique, même s'il nous réserve quelques particularités plus ou moins bien exploitées.
Tu es un petit garçon qui cherche un capitaine qui lui dise quoi faire.
Tu es un fils de Sif.
On est des rebelles, des guerriers.
Vous portez tous des robes.
Il n'y a rien qui fait plus peur aux hommes que la folie.
Et ces particularités ouvrent carrément le bal. Le titre français occulte l'un des apports originaux de la version de Kurzel. Donc en version originale, le film s'appelle The True History of the Kelly Gang, soit la vraie histoire du gang Kelly. Or, il débute sur un carton précisant que rien de ce que vous allez voir n'est vrai. Serait-on donc dans une réinterprétation d'une figure historique devenue légendaire comme dans le Gainsbourg vie héroïque de Johannes Farr ? Eh bien, on n'est pas loin. Si on retrouve les grandes lignes de la vie connue de Kelly, ce n'est pas forcément pour lui faire subir le traitement qu'on imaginerait à la base. Il va falloir faire une croix sur les scènes d'attaque de banque ou des gangsters accomplissant des exploits sanglants, car une très grande partie de l'intrigue va se recentrer sur la supposée psychologie du héros, qui va avoir fort à faire avec une figure que Deep connaît bien. La fameuse vraie histoire du gang de Kelly met au centre des actions du personnage principal son rapport conflictuel avec sa mère, moteur de sa psyché et de sa vision du monde. De putain récalcitrante à louve protégeant sa portée nombreuse, précisons-le, en passant par initiatrice d'actions viriles à illuminer de la cause à défendre, Essie Davis rappelle la mère barbare des Wendells dans Le 13e guerrier de John McTiernan et vole presque la vedette à tout le monde tant la violence de son interprétation marque les esprits. Il faut dire que le jeune Kelly semble plutôt sorti d'un film de Larry Clark et que dans le rôle principal, une fois que le personnage est devenu plus grand, George MacKay continue à s'effacer au profit de films à l'esthétique envahissante et au contenu plutôt flottant, comme dans l'embarrassant 1917 de Sam Mendes. Et oui, flottant, car lorsque l'on comprend que la vision du monde de Helen Kelly est que rien n'est gratuit en ce bas monde et que le scénario s'évertue à démythifier son principal protagoniste au point de lui enlever toute aura, c'est que la transformation de l'enfant perdu en figure populaire rebelle n'arrivera jamais, et ce, malgré les 2 heures de long métrage. L'occasion manquée est même appuyée par l'un des membres du gang qui dit à Kelly « Tu peux faire croire aux autres que tu es Jésus-Christ, mais c'est faux. Tu n'es qu'un homme qui va finir sous la potence, nous le sommes tous. » Donc c'est fort dommage, car il avait effectivement un lien pertinent à creuser entre les actes fondateurs de la vie d'un simple enfant à l'érection d'un mythe qui symbolise la grogne d'un pays. Justin Kurzel ne manque pourtant pas d'idées visuelles intéressantes, comme un siège final ponctué d'une lumière stroboscopique. On pense forcément à la récente saison 3 de Twin Peaks de David Lynch, mais qui peine à trouver une justification convaincante. Fait étonnant de la part d'un réalisateur s'étant fait un nom auprès du grand public avec une adaptation de Macbeth. Bon bref, on vous en voudra pas si vous préférez des vrais faux biopics de rebelles comme le Dillinger de John Milius. Bah tiens, lui, étrangement conçue dans ces fameuses années de contestation que furent les années 70.
Les liens du sang, la chair et le sang, les bonnes.
Le gang de Kelly de Justin Kurzel est donc disponible en DVD Blu-ray.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
Pour la semaine prochaine, nous n'avons pas encore de sommaire. Nous allons bien attendre d'avoir un peu plus d'informations sur les films qui pourraient sortir ou ne pas sortir. Restez à l'écoute.